Chapitre 7e. En arrivant à la santé, mon premier soin fut d'examiner ma cellule. Trois détenus s'y trouvaient déjà. Il était évident qu'avec mon esprit méticuleux, si j'avais été amené à tracer les plans d'une prison, j'eusse, je crois, tout prévu. Je m'aperçus tout de suite que d'autres gens étaient capables autant que moi de tout prévoir. Ce n'était plus comme en Allemagne. Ici, là-bas, quoique ce fût très difficile de s'évader, on n'avait pas songé à tout. On avait malgré tout improvisé, fait ce qu'il y avait de plus simple. On nous avait mis dans des baraquements. On avait entouré ces baraquements de barbelés, placé des sentinelles armées partout. Ici, personne n'avait d'armes, du moins apparemment, à part les surveillants des gardiens. Je compris que j'étais cette fois vraiment prisonnier. Cela me plongea les premières heures dans un profond abattement. Je m'assis sur l'escabeau attaché à une chaîne et je me mis à pleurer, ce qui me soulagea. J'allais examiner la serrure, les barreaux de la lucarne, mais sans toucher à rien. Je me rendis compte tout de suite qu'il ne fallait pas songer à m'évader autrement que par un tour de passe-passe administratif. Le premier qui se présenta à mon esprit fut celui d'une substitution de personnes. Nous étions quatre. Peut-être surgirait-il une occasion de ce côté. Mais je m'aperçus dès le lendemain que le gardien nous connaissait individuellement. Il allait falloir que j'attende. Avant de me juger, on me conduirait au palais de justice. J'allais certainement avoir l'occasion de circuler. En attendant, j'étais là. Le lendemain, le gardien ouvrit la porte et m'appela. Je ne bougeais pas. Je voulais voir ce qu'il allait faire. Il me regarda, répéta mon nom. Que le gardien sut qui j'étais me fit très mauvaise impression. Je fis l'imbécile. Le gardien insista en me dévisageant. Je lui dis qu'il se trompait, que je m'appelais Tinet. Il n'avait qu'à se renseigner, regarder mes papiers. Je n'entre pas dans ces considérations. Je pris un ton agressif. J'en avais assez d'être confondu avec un autre. J'avais la naïveté de croire qu'en jouant l'indignation avec des subalternes, cela me serait utile, cela prouverait ma bonne foi. Il fallait, pour que mes dénégations parussent sincères en haut lieu, que je n'eusse pas l'air d'y avoir recours seulement en présence de personnages officiels, mais dans les situations les plus obscures. Le gardien insista en me prenant par les bons sentiments. Je finis par le suivre, mais tout le long du trajet, je me mis à crier que c'était honteux, etc. C'est une chose curieuse que de dire ce que l'on pense des gens entre les mains desquels on se trouve. La tolérance du pouvoir nous montre bien que nous sommes impuissants. Le gardien ne me pria même pas de me taire. Il me laissait faire avec la plus complète indifférence. Je criais de plus en plus fort. Le soir, je feignis de croire que ma dernière heure avait sonné. Je voulais écrire une lettre d'adieu à mon père. Mais mon père ne s'appelait pas Tinet. Je l'écrivis donc à Mondanel, avec le désir secret qu'elle passerait entre les mains de beaucoup de monde. Une lettre très simple, dans laquelle je disais qu'il était incroyable qu'on pût être accusé d'un crime qu'on n'avait pas commis, que certainement je ne le reverrais jamais, que je pardonnais à ceux qui m'avaient fait tant de mal. Ce n'était pas leur faute, ils avaient été trompés. J'étais la victime d'une effroyable fatalité. Nos actes, vus à distance, ne sont jamais ce qu'ils auraient dû être. Quand je me remémore aujourd'hui cette lettre que j'avais crue si juste de ton, je me rends compte qu'elle sonnait faux, et que rien dans mon attitude d'alors n'avait été naturel. Tout sentait la plus grossière des comédies, et je ne crois pas que quelqu'un en ait été dupe un instant. Mais il faut laisser ceci à l'administration judiciaire. Elle a les qualités de ses défauts. À force de se méfier de tout, elle ne se méfie pas plus quand il y a des raisons de le faire que quand il n'y en a pas. Cette comédie, je m'en apercevais à présent, ne m'avait fait aucun bien, mais elle ne m'avait fait aucun tort. Quelques jours plus tard, il m'apparut que le seul moyen que j'avais de me tirer d'affaire était de faire la grève de la faim. J'hésitais longtemps, car en même temps que je faisais beaucoup de bruit pour mon innocence, j'étais un peu inquiet d'attirer trop l'attention, de me mettre en évidence. Je me décidai enfin. Quand le gardien nous apporta la soupe par le guichet, je la refusai en disant que je ne voulais pas manger. « Ne faites pas le malin, monsieur de Talouet, » me dit le gardien. Il tendit ma gamelle à l'un des autres détenus. Deux jours de suite, ce manège se renouvela. Personne ne voulait admettre que je faisais la grève. Et le gardien pouvait l'ignorer car ma gamelle revenait toujours vide. je me rendis compte à ce moment que j'avais été maladroit de n'avoir pas auparavant écrit au directeur de la prison. J'aurais dû commencer la grève de la faim à date fixe, annoncée à l'avance, tandis que de cette façon je la faisais inutilement et je risquais, au moment où l'on s'en apercevrait et où l'administration se mettrait en mouvement, d'être mort. Devais-je m'interrompre et écrire cette lettre? Mais mon geste alors perdrait de sa spontanéité et aurait l'air d'un calcul qu'un innocent n'eût justement pas fait. On pourrait dire « Qu'est-ce que c'est que ce gréviste ?» Je me rendais compte que je serais beaucoup plus fort si je continuais, quoiqu'ayant mal commencé. Je me remis cependant à manger. Quand je me sentis un peu mieux, je me décidai d'écrire ma lettre au directeur de la prison. Mais devais-je écrire comme quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la justice, dire que j'étais innocent et que je faisais la grève de la faim, ou bien faire parvenir au directeur un constat rédigé dans les termes habituels, ce qui pouvait laisser supposer que je ne me laisserais pas faire, que j'avais conscience de mes droits? Il aurait fallu quelqu'un pour me conseiller. J'interrogeai mes compagnons. Ils me dirent que cela n'avait pas d'importance. Je sentais que, tout en m'encourageant, ils n'aimaient pas beaucoup le genre innocent que je prenais et qui faisait que j'avais l'air de me croire plus qu'eux. J'écrivis finalement ma lettre. Je la remis au gardien en lui disant ce qu'elle contenait. Puis, le lendemain, le soir seulement, je refusai de nouveau ma nourriture. Le cinquième jour, il ne s'était toujours rien produit. Je me disais que ce silence ne pouvait provenir que du fait que, administrativement, j'étais toujours nourri, puisque ma ration était distribuée. Il me fallait donc non seulement la refuser, mais empêcher mes camarades de la prendre. Je le leur dis, ils se mirent en colère. Une autre difficulté se présenta. Un de mes compagnons dit un matin, « Après tout, ce n'est pas une si mauvaise idée. » Je sentis que la pensée de m'imiter était en train de se frayer un chemin dans son cerveau. Ce serait la catastrophe. À partir de ce moment, je ne songeais plus qu'à les empêcher de m'imiter. J'exagérais mes souffrances. Je parlais de punitions que je risquais d'encourir. Je leur dis que si tout le monde faisait la grève de la faim, celle-ci serait inopérante. Il me fallait gagner du temps. Après, mes compagnons pourraient faire ce qu'ils voudraient. Qu'il est difficile de garder pour soi une idée. Nos semblables ne se font aucun scrupule de nous suivre quand ils s'aperçoivent que nous sommes sur la bonne voie. Je m'affaiblissais. Les gardiens me maltraitaient et cherchaient à m'intimider. Ils prétendaient que je voulais leur attirer des histoires. Cela me coûterait cher. On me laisserait crever. Leur grand argument était le suivant. Il ne fallait pas que je m'imagine que le monde entier avait les yeux fixés sur moi. Personne ne s'occupait de moi. Si cela me chantait, je pouvais continuer. C'est une chose que je ne me suis jamais expliquée qu'un abus ou une injustice qui eût pu si facilement demeurer cachée finisse par monter jusqu'au grand jour. En effet, malgré l'hostilité qui m'entourait, un rapport ne tarda pas à être établi à la direction de la prison. Je crus alors que mes ennemis allaient redoubler de méchanceté. Or, à ma grande surprise, ils se montrèrent brusquement pleins d'égards pour moi. On nous conduisit enfin tous les quatre à l'infirmerie, car mes compagnons profitaient naturellement de la situation. Cette infirmerie me déplut tout de suite. Le fait de vouloir guérir les gens en même temps qu'on les prive de leur liberté y faisait régner une atmosphère bizarre. On sentait, d'autre part, qu'on n'avait pas voulu qu'il pût être dit qu'on y était mieux qu'en prison. J'en étais à mon 14e jour de jeûne, alors que mes compagnons venaient de le commencer. Grâce à moi, sans avoir subi le même affaiblissement, ils bénéficiaient de la même mesure, ce qui me mettait dans une grande colère contre eux. N'aurais-je pourtant pas dû me réjouir si, grâce à moi, ils réussissaient aussi à se tirer d'affaire? Mais quand un fonctionnaire vint nous interroger, en nous mettant tous les quatre sur le même pied, je ne pus m'empêcher de dire que mon cas n'avait rien de commun avec celui de mes compagnons. Je le regrettais aussitôt. À chaque instant, la vie s'efforce de détruire nos beaux sentiments. Il faut que ceux-ci aient des racines profondes pour demeurer quoi qu'il arrive. À la suite de ces réflexions, je parvins à me solidariser avec mes compagnons. Ils me faisaient évidemment du tort. Je me consolais en me disant que la liberté leur était aussi précieuse qu'à moi.